Moi, je parle pas du bouddhisme et du cachet oriental. J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai été libre de compagnie au Casanga. Je pense qu'en combinant les deux, je dis que le président trouvait une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. Le prix du litre de l'essence à la pompe passe de 1440 francs congolais, environ 1,3 dollar américain, à 1490 francs congolais, 1,4 dollar, soit une augmentation de 50 francs congolais. La décision a été prise le lundi 22 août par la structure des prix qui réunit le groupement des sociétés pétrolières privées et les délégués du ministère de l'économie et des hydrocarbures. Selon le vice-président du groupement des sociétés pétrolières privées, Emery Bopé, il s'agit tout simplement d'un réajustement du prix de l'essence. Certains observateurs estiment que le gouvernement aurait mieux fait de garder l'ancien prix vu que celui-ci n'avait pas baissé après la chute du prix du baril à l'international. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6340 pour intervenir en direct. C'est le débat. C'est également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Jean-Claude Siala est à la mise en œuvre de cette émission. Julie Feza est au standard et à la réalisation. Et Piero Elamegi a le réel plaisir de vous la présenter sous la supervision des Julien Niamouini. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero Elamegi.
Rappelons que le prix du baril du pétrole à l'international pour ces jeudis avant d'entrer dans ces studios est de 47 dollars américains. Et dans les explications, Emery Bopé a indiqué que trois éléments majeurs ont été pris en compte dans la fixation de ces prix. Il s'agit d'abord du taux d'échange de la devise américaine qui est passé de 935,75 francs congolais à plus de 1000 francs congolais, soit une augmentation de 5% d'un des paramètres pris en compte de la fixation du prix à la pompe. Et il a dit également que depuis plusieurs mois, les prix de l'acquisition du produit pétrolier à l'échelle mondiale a augmenté. Mais plusieurs observateurs estiment lors de la chute du baril à l'international, le gouvernement aurait dû baisser les prix de la consommation à la pompe pour permettre à ce qu'il y ait une stabilité, que ce soit à la pompe, que ce soit chez les revendeurs, mais aussi, comme on sait chaque fois que l'augmentation du prix du produit pétrolier à la pompe a tendance à avoir l'incidence sur les autres biens de consommation. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez également déposer votre commentaire sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Et pour le moment, nous avons Michel Sommier, analyste économique, qui est à nous, avec nous en direct dans ce magazine. Michel Sommier, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot et Ramézi, permettez-moi de saluer également vos fidèles auditeurs de Radio Okapi. Et c'est un grand plaisir pour moi de retrouver vos antennes pour partager avec nos amis congolais sur les préoccupations communes.
Et vous aviez dit lors de notre dernière émission autour du prix du carburant à la pompe, quand il y a eu baisse à l'échelle mondiale, et que c'est le secteur le plus sûr où l'État a au moins l'assurance de pouvoir rentrer les devises pour le compte du trésor public, et c'est pourquoi il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte dans la baisse. Mais aujourd'hui qu'on réagit, c'est les prix en augmentant, bien sûr, il faut le dire, dès lors qu'on ne pouvait pas baisser quand il y avait chute à l'échelle mondiale, comment, dans l'opinion, on peut interpréter cette décision?
D'abord, si j'avais dit l'autre fois que c'est le secteur le plus sûr pour la mobilisation des recettes de l'État, parce que c'est un impôt facile à lever, une taxe facile à lever, ceux qui la payent comme taxe ne se rendent même pas compte généralement, ce n'était pas pour encourager le gouvernement à se cabrer dans une position injuste. C'est pour dire, oui, c'est vrai, ce sont des faiblesses du gouvernement, et le gouvernement devrait être capable d'inventer des mécanismes qui lui permettent une meilleure collecte et qui le mettent plus ou moins à l'abri de l'injustice. Parce qu'il est quand même honteux d'être publiquement injuste comme le gouvernement est en train de le faire. Maintenant, aujourd'hui, que le taux d'échange a fait ce qu'il a fait dans notre pays, le gouvernement s'empresse à revisiter le prix à la pompe. C'est aussi ça qu'il appelle de l'injustice. Pourquoi de l'injustice? Parce que, il vous souviendrez, vous l'avez me rappelé dans votre introduction, que le baril avait, sur le plan mondial, le marché mondial, le baril du pétrole était parti de 111 dollars jusqu'à frôler les 28 dollars. Et le gouvernement de la RD Congo est resté flegmatique. Il n'a pas bougé le moindre prix du carburant. On a gardé le même prix affiché sur nos pompes. Les gens ont parlé et le gouvernement est resté sourd devant tous les prix de tout le monde. Pendant que le monde entier réajustait les prix à la pompe. Je vous ai dit dans une autre émission, que, dans la même émission d'ailleurs que vous avez rappelé tout à l'heure, qu'au Venezuela, qui est aussi un pays producteur du pétrole comme nous, le prix à la pompe est fixé à l'équivalent de 14 francs congolais. Il n'y a pas de raison que nous ayons un prix 100 fois plus cher que le Venezuela. Il n'y a pas de raison. Mais hélas, je reconnais, Thérault, que les prix des biens et des services sont sujets à modification. Ils sont sujets à modification suivant que se modifient également les conditions de l'offre, les conditions de la demande. Les conditions de l'offre sont généralement liées au coût de produit, au coût de production, et les conditions de la demande sont liées aux préférences des consommateurs. Mais je reconnais qu'il existe en pareil cas des situations qui peuvent entraîner des dérapages et entraîner également des coûts sociaux énormes. C'est pour ça que des gouvernements comme le nôtre choisissent de retirer de la liste du marché un certain nombre de biens qui constituent ce qu'ils appellent des biens stratégiques, c'est-à-dire des biens pour lesquels la moindre modification des conditions de production ou des préférences des consommateurs peut affecter le bien-être de la population. J'entends par bien-être ce que nous appelons généralement le développement économique.
Mais alors, Michel Somoti, on regarde aujourd'hui les trois éléments qui sont pris en compte dans la fixation des prix. Parlons du taux d'échange. Rappelons quand même qu'au niveau des façons service, c'est pas le taux qui est appliqué officiellement ou appliqué au niveau de la consommation qui est utilisée au niveau des stations service. Quand aujourd'hui on peut bien sûr trouver les taux d'échange à 1000, soit 1040, 1050, soit 1020 francs, c'est pas ces taux là. Cela veut dire que déjà au niveau de l'achat, le taux qui est appliqué à la station, c'est pas le taux qui est utilisé dans la consommation. Alors comment peut-on recourir au taux d'échange alors que c'est pas le taux qui est appliqué au niveau des stations service?
Le problème, Thierry, c'est que le gouvernement a une propension énorme à pénaliser la consommation. Parce qu'il vous dira, contre votre argument, que, quoi qu'il en soit, le taux a quand même changé, y compris à la station. On est passé de 230, on est aujourd'hui à la station autour de 1020 ou 2000 même. Pour le gouvernement, c'est toujours un changement de taux qui justifie qu'on puisse réajuster le prix. Mais moi, j'appelle cela simplement de la propension à pénaliser. Je voudrais me focaliser sur l'aspect de la justice, l'aspect de l'équité des prix. Lorsque les prix sur le marché mondial, lorsque des éléments qui déterminent les offres des produits comme le pétrole sont en faveur de l'augmentation de la production et en faveur de la baisse du produit, le gouvernement ne le fait pas, il ne suit pas ces éléments. Lorsque les éléments sont en défaveur des producteurs, le gouvernement s'empresse de réajuster pour dire il faut tenir compte des opérateurs économiques pour qu'il n'y ait pas demain après demain des pénuries de produits, etc. On a comme l'impression que le bien-être ou le développement du point de vue du gouvernement, c'est la bonne santé des films et non pas la meilleure consommation de la population. Là, ça fait un problème. Je le dis parce qu'il n'y a pas longtemps, Thierry, il n'y a pas longtemps que le gouvernement a pris des mesures qui sont aujourd'hui en faveur de l'augmentation des prix du ciment. Et il faut rappeler qu'il y a, environ une année, excusez-moi, je n'ai pas de calendrier dans ma tête, nous avons fait une émission avec votre collègue hier, dans Parole aux auditeurs toujours, où nous avions fustigé le fait que le ministre Bahati, le même ministre Bahati, était en train de vouloir augmenter les prix du billet d'avion. Donc tous les prix, tous les produits stratégiques, du point de vue du ministre Bahati, sont exposés essentiellement à l'augmentation des prix. si on était arrivé à la baisse des prix, c'est parce que nous avions mobilisé l'opinion à travers les antennes de Radio Okapi pour dénoncer cette mauvaise foi du ministre qui cherchait à augmenter le prix. Et vous savez, M. Blattner a fait beaucoup. Il avait le monopole. Il s'était même lui-même opposé, il avait même refusé d'augmenter le prix suivant la demande du ministre. Le ministre avait été passé à la télévision pour s'expliquer, se justifier et faire croire aux gens que c'était le contraire, au contraire, celui qui voulait que le prix baisse, ce qui n'est pas vrai. Mais j'ai plutôt l'impression que Monsieur le ministre, depuis qu'il est dans ses fonctions, il est caractérisé par une sorte de cynisme vis-à-vis du consommateur congolais. Mmh. Parce que avoir cette propension à vouloir à tout moment réprimer la demande, à vouloir à tout moment augmenter les prix des biens stratégiques, les seuls biens qui sont sous sa protection, moi je me pose des questions sur son patriotisme, je me pose bien la question sur son citoyen, son nationalisme. Il y a des questions à s'interroger.
Le
premier du gouvernement, c'est le bien-être de la population. Et le bien-être de la population comprend notamment l'amélioration du pouvoir d'achat, notamment par la baisse des prix des biens.
Vous avez évoqué le Sénat, rappelons que le mardi, ça sera le débat d'un parole aux auditeurs, parce qu'aujourd'hui, avec la mesure d'interdiction d'importation du ciment gris, vous savez qu'à Kinshasa, par exemple, les sommes du ciment est parti de 9 000 à 17 000, 18 000 francs congolais. C'est le débat qu'on aura d'un parole aux auditeurs le mardi, parce que vous avez évoqué cela. Mais pour vous, vous êtes inquiété par cette idée de pouvoir augmenter. On va revenir à vous. Docteur Richard, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, bonjour Monsieur Somoué, que je n'ai plus entendu depuis longtemps.
Mm-hmm.
Oui, alors, moi, en écoutant tout ce qu'on est en train de dire, toutes les raisons qu'on donne là, je me demande qui va aimer le Congolais à partir du Congolais. Nous souffrons depuis Léopold II, le coupeur de main de Congolais, jusqu'à aujourd'hui. Quelle est cette richesse? Quelle est cette histoire qu'on vend au Congo qui profite aux Congolais? Je prends à titre d'exemple ce pétrole qu'on est en train de dire, de parler. Le gouvernement pouvait, quand le baril est arrivé à 25, je crois, faire des stocks stratégiques, parce que gouverner, se prévoir. On pouvait acheter le triple, le quadruple de ce qu'on achetait quand c'était à 100 dollars. Pour nous raconter des blabla aujourd'hui et nous punir. Quelle est cette richesse qui profite aux Congolais? Quand vous prenez le cuivre du Congo, c'est le Katanga. Mais le Katanga, il y a la malnutrition là-bas. Le Katanga vit au dépens du Zambien qui lui donne à manger. Hein? Avec ça, on insulte même Mobutu, on dit, mais Mobutu avait laissé les. La Gécamine Holding, c'est parti où? Parce qu'il y avait une Gécamine Développement là-dedans. Quand nous prenons le diamant de Mbujimayi, la capitale mondiale du diamant, allez voir, il y a des huttes là-bas. C'est le coin qui regorge les enfants le plus malnutris en RDC, en pourcentage. Quand nous prenons tous les. Nous avons le tableau de Mendeleev ici. Qu'est-ce qui profite à nous? Prenons le coltan. C'est le Rwanda qui est le producteur mondial. No filming. Le Rwanda achète des avions neufs. Nous, nous allons dans la friperie des avions. Ce n'est pas normal.
Voilà comment. Alors, pour vous, docteur Richard, vous avez quand même soulevé quelque chose de très important. Vous avez dit, quand il y avait baisse à l'échelle mondiale, le gouvernement aurait mis des mécanismes ou permis aux importateurs de pouvoir constituer des stocks stratégiques qui ne pouvaient pas, aujourd'hui, nous conduire à une inquiétude. Et là, vous avez rejoint carrément Michel Somoué qui évoquait tout à l'heure l'idée du patriotisme dans la prise de décisions. Merci beaucoup, docteur Richard. Maître Serge, vous êtes à Kamina. Bonjour, Maître Serge.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Maître Serge.
Bon, heureusement, le prédécesseur vient de consommer tout ce que j'aurais à dire, mais néanmoins, je vais dire au moins quelque chose. À quoi est liée cette instabilité des prix dans notre pays? Les Congolais souffrent donc aujourd'hui, c'est à 1500, demain on se réveille, on voit à 1600, c'est l'endemain. Donc il y a toujours une instabilité dans les prix. On ne sait pas. Ils sont témoins, ils savent pourquoi il y a toujours l'instabilité dans l'économie. Et là, nous regrettons, nous les Congolais. Hein. Et que le gouvernement ne peut pas seulement déployer les moyens et il achète cette histoire-là, il va mettre dans l'entrepôt. Et quand il y a un moment où il y aura hausse, et le gouvernement va se tracer une marge pour vendre peut-être à 1000 francs ou à 1200, parce que le gouvernement est doté de tous les moyens. Hein?
Alors là, vous vous posez la question sur le rôle que l'État pouvait jouer quand il y avait baisse de produits à l'échelle mondiale. Michel Somoué, c'est que le docteur Richard venait de dire tout à l'heure que qu'est-ce que nous avons fait quand il y avait baisse à l'échelle mondiale, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Mais il y a aussi cette question de la corrélation entre ces réajustements de prix et avec la tendance aussi à influencer les prix dans d'autres domaines des consommations. Quand on voit déjà aujourd'hui, entre 18h, 19h, 20h, beaucoup de vous allez voir déjà que les chauffeurs jouent sur la spéculation autour du transport en commun, mais comment pourrait-il créer l'équilibre alors sur cette augmentation avec la tendance à augmenter les prix dans d'autres domaines de consommation?
Merci, Thierry. D'abord, à propos de l'analyse de Richard, qui est une analyse très rationnelle sur la notion de stock stratégique, la notion de prévision macroéconomique. Lorsque un gouvernement responsable et même une entreprise rationnelle constate qu'il y a des baisses de prix significatives sur le marché, ça peut constituer des réserves stratégiques. Mais le problème, dans notre cas du pétrole pour notre gouvernement, ce n'est même pas celui de la meilleure gestion des stocks pour l'amélioration des conditions de vie. Le problème de notre gouvernement, c'est comment ponctionner des ressources sur les poches des consommateurs congolais pour se taper de bons salaires, se taper de bonnes conditions de vie en tant que ministre, se taper de grosses jeeps, rouler comme on veut dans un pays d'extrême misère, pour créer la différence, créer la distance de plus en plus ample, qui puisse être la seule capable de permettre aux dirigeants d'écraser les administrés. C'est ça le problème de notre pays. Plus l'écart entre les riches et les pauvres est énorme, plus les riches ont les possibilités d'écraser davantage les pauvres, de les étouffer et de les soustraire à toute possibilité de revendication des droits. C'est ça le problème qui se pose dans le pays. Alors, et c'est pour ça, moi j'appelle certaines décisions que le gouvernement prend, je les trouve simplement cyniques. C'est du cynisme pur et simple. Parce que le rôle du gouvernement, j'insiste, c'est d'améliorer les conditions de vie de sa population et non pas d'améliorer les ressources de team. Le gouvernement ne travaille pas pour les entreprises, pour les cibles. Le gouvernement travaille pour le peuple. Parce que c'est un gouvernement du peuple et non pas un gouvernement des entreprises. C'est pour ça que dans des pays sérieux, le gouvernement intervient même souvent comme opérateur économique sur le marché. On a parlé de l'État-providence, on a parlé des autres conditions où l'État, même gendarme, intervient dans un nombre donné de secteurs considérés comme des secteurs stratégiques. Parlons justement des secteurs stratégiques. Je rejoins justement le deuxième aspect de la question. C'est parce que justement le gouvernement voudrait éviter que les modifications des conditions de l'offre ou de la demande d'un bien sensible puissent entraîner une détérioration des conditions de vie de la population, que l'on catégorise ces prix, qu'on retire ces prix des conditions de situation des prix par les marchés. On retire ces biens du marché pour les mettre dans la catégorie ce qu'on appelle des biens stratégiques. Et s'agissant du pétrole plus précisément, il a des impacts multisectoriels énormes. La moindre modification du prix du pétrole entraîne la modification non seulement du prix de transport en commun, mais également du prix du manioc, du prix du maïs, du prix de tous les produits qui sont transportés sur le camion, dans les bateaux et même sur les vélos, sur ce sont des carburants. Il y a des effets d'entraînement. Et ces effets, ce sont des effets qui se multiplient. De telle sorte que la moindre modification, je dis bien le mot la moindre modification, a des répercussions énormes sur l'ensemble des conditions d'existence de la population. Et le gouvernement ne peut pas dire, comme j'ai entendu dire, on a modifié que de 50 francs. Mais est-ce que vous savez les effets multiplicateurs de ces 50 francs? Quand c'est un économiste qui le dit, mais je suis sidéré, c'est pas possible. Parce qu'on vous parle en économie, on parle surtout de conditions marginales, d'une variable, de modifications marginales. Quels sont les effets boomerang qui proviennent d'une modification marginale, comme c'est le cas aujourd'hui avec le pétrole. Vous allez voir, et quand les conditions de transport en commun, les transporteurs commencent à faire le déni terrain, même s'ils n'augmentent pas le prix de façon nominale, mais ils augmentent de façon réelle à travers le déni terrain, à travers une condition qui se c'est-à-dire qu'ils se rétrécissent pour assurer la même fluidité, ça veut dire
mais alors,
les pécuchés également qui ont le rendement au travail.
Voilà. Mais quand même,
les travailleurs qui commencent à arriver en retard et autres.
Mais quand si on écoute les explications du groupement des sociétés pétrolières, hein, qui ont travaillé avec le gouvernement autour de ces réajustements des prix, il y a quand même trois éléments, comme je l'ai dit en début. Et au-delà du fait que le baril est resté en deçà de 50 dollars jusqu'à avant d'entrer dans ce studio à l'échelle mondiale, mais il y a quand même les prix d'acquisition de produits bruts, du produit pétrolier. On estime qu'à l'échelle mondiale, ces prix ont augmenté et c'est un problème des taux d'échange. N'est-ce pas qu'à ce moment-là, on peut leur donner raison, mais quitte à pouvoir expliquer aux consommateurs l'ensemble de ces mécanismes pour éviter qu'il y ait un dépit de spéculation.
Pierrot, il y a eu une légère augmentation du baril sur le marché mondial qui est remontée pratiquement petit à petit de 30 dollars le baril jusqu'à atteindre aujourd'hui 47 dollars le baril. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes partis de 111 dollars le baril pour tomber à 28-25 dollars le baril. Mais lorsque la chute a été si profonde, le gouvernement n'a pas été sensible à cette chute pour modifier le prix. Mais la moindre modification du prix ou du coût de production, du côté des firmes, le gouvernement s'empresse à modifier. C'est ce qu'ils appellent l'injustice. Moi, je pense que les prix, le gouvernement doit jouer le rôle de régulateur du marché, comme il veut le faire, mais le régulateur du marché est comme un arbitre qui doit être juste, qui doit savoir sanctionner positivement et négativement quand il le faut, et non pas s'empresser d'offrir une faute à une équipe qui n'en mérite pas, alors que vous laissez passer les autres fautes plus graves sur la surface de réparation, vous ne citez pas.
Voilà, on va revenir à vous. On écoute Maître Omar Fétissé, qui nous a fait confiance comme moi qui me paie. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Maître.
Tout en saluant le retour de M. Soumoudi, je tiens à préciser, c'est-à-dire qu'à ce moment, notre État, c'est d'être un homme. Il est devenu un tâche économique. Et à tant que tel, il est appelé à jouer son rôle d'entrepreneur, mais aussi et surtout son rôle régulateur. Et je pense, maintenant de prix, comme nous sommes un État de droit, qui est présenté par le M. Perrault, nous avons la loi phare qui est la loi des 62, qui a été modifiée en 83. Cette loi donne la liberté aux opérateurs économiques de fixer des prix selon les achats qu'ils ont fait en vue de gagner le bénéfice. Parce qu'un opérateur économique fixe le bénéfice. Mais le rôle de l'État, c'est de fixer les barrières marginales au-delà duquel l'opérateur économique ne peut pas dépasser pour sauvegarder les pouvoirs d'achat des Congolais. C'est ce que nous ne voyons pas. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement en juin? Il faudra aussi noter, comme l'a dit M. Soumoué, il y a des produits stratégiques pour lesquels l'État doit payer. Nous avons l'eau, les courants électriques, nous avons également les transports, sans oublier le pétrole. C'est bien de réglementer, c'est bien de réguler. Mais en droit économique, c'est ce qu'on appelle les mesures de concertation. On exige à l'État d'être présent lorsque les opérateurs économiques fixent leurs prix. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que cette chose n'est pas réglementée. Si vous lisez la loi sur les prix, et si vous lisez les grandes théories économiques, on vous dit que dans les domaines des produits stratégiques, lorsque les prix sont décidés, il faut qu'un représentant des consommateurs soit là, il faut que les entrepreneurs soient là, il faut que l'État soit là. Qu'est-ce que les consommateurs qui représentent les autres? Il tient à ce que les prix qui seront fixés puissent tenir compte des réalités des pouvoirs d'achat des Congolais. Qu'est-ce que l'État? Il ne doit pas seulement être entrepreneur, en créer des entreprises, il doit être aussi régulateur, comme l'a dit le jeune l'arbitre. Veillez à ce que les prix qui seront fixés tiennent compte des barrières qui ont été prévues dans les discussions faites préalablement. On a comme l'impression aujourd'hui que les décisions qui sont prises ne tiennent pas compte de la réalité des pouvoirs d'achat des Congolais. Comme l'a dit M. Soumou, on a comme l'impression qu'il y a un certain protectionnisme qui détruit les Congolais. Il faut aussi appliquer cette étape appelée le réalisme économique. C'est vrai, nous devons être conscients. Nous avons une économie extra-asiatique, ça peut être aussi ligne de cause. C'est vrai aussi que la plupart de nos investissements sont liés aux étrangers, ça peut être ligne de cause. Mais le rôle de l'État, c'est aussi d'éveiller à ce que les prix qui sont fixés ne puissent pas dépasser les pouvoirs d'achat des Congolais. Tout ces règles, M. Perrault, par le respect des lois qui sont établies, ces lois qui veulent que lorsqu'on fixe des prix, même de façon libérale, qu'on tienne compte des barrières, cette loi qui veut que lorsqu'on fixe des prix, qu'on le fasse de manière concertée, cette loi qui veut que lorsque l'État agit en régulateur, qu'il tienne d'abord compte du pouvoir d'achat des Congolais, le reste est vivra après.
Merci. Merci beaucoup, Maître Omar. Rappelons quand même que la structure des prix réduits, le groupement des sociétés pétrolières privées et les délégués du ministère de l'économie et des hydrocarbures, il reste à savoir si dans ces discussions, il y a aussi un délégué des consommateurs qui doit assister pour défendre l'intérêt des consommateurs dans la fixation de ces prix. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup insisté sur ce rôle-là que l'État doit jouer dans la protection de la population. C'est ce que disait notre invité tout à l'heure. Conscience Kabongo, vous êtes à Kimpese. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, Mbote Jambo à tous les opartistes de la paix. Et avec toute la fierté d'appartenir à un grand pays comme le Congo, mais avec la petitesse de la pauvreté qui nous entoure. En fait, je me pose la question de savoir à qui profite l'exagération du prix. C'est le seul secteur où le gouvernement, ou alors les autorités qui nous gèrent, nous volent facilement sans que nous nous rendions compte. Parce que chaque fois qu'il y a des prétextes, quand il y a un effort de guerre, on retombe sur le carburant. Et quand on ne réclame pas, on ne fait rien. J'ai eu la chance de faire toute la route nationale, en commençant par Banana jusqu'au Katanga. Nous sommes dans quel pays là où un produit stratégique comme l'essence et le carburant doit avoir 10 prix différents dans différentes villes. Le même litre d'essence qui coûte 1400 quelque chose à Kinshasa, à 600 km, il coûte 450 francs. C'est-à-dire, je parle de Moanda. Mais qu'est-ce que ces autorités là font pour leur population? Qu'est-ce que les nôtres n'ont pas pour faire la même chose? Pourquoi l'Angola peut importer le carburant, peut exporter le carburant? Mais si la source, là où nous nous ravitaillons, après la baisse du prix du baril, qui est aujourd'hui à 47 dollars, quelle est cette explication qu'on va nous donner pour que le prix reste 3 fois plus que le prix du baril? Et l'Angola qui est à quelques mètres de chez nous, vous allez à Soyo, vous allez à Lufu ici, même si maintenant on commence encore à combattre les gens qui commencent à se retrouver dans la vente des carburants, l'essence coûte 450 et 500 francs. Si la source que le gouvernement utilise nous coûte cher, pourquoi ne pas aller en Angola tout près ici et faire en sorte que la population puisse respirer? Oui, et si nous tenons compte du taux de change qui est le taux parallèle actuellement à 1100 francs pour 1 dollar, donc en réalité l'essence ne devait pas nous coûter ce prix là. C'est simple de comprendre que rien qu'avec avec ce que les dirigeants font, rien de ce qu'ils font n'est en faveur du peuple congolais, même si le taux est à 1100 francs, et ça n'allait pas coûter ça. Qu'est-ce que nos voisins font? Qu'est-ce que les dirigeants de nos voisins ont de plus que ont de plus dans leur tête, plus que nos dirigeants, pour que nous ne bénéficions pas de cette faiblesse de prix? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si peut-être ils n'arrivent pas à apprendre à aimer leur population, qu'ils aillent quand même faire même un stage de 1 mois ou de 2 mois pour apprendre comment est-ce que l'Angolais achète l'essence moins cher, comment est-ce que l'Angolais nous vend l'essence à moins d'un demi-dollar. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Le même litre qui coûte 550 à l'embouchure du fleuve Zaïre, il coûte 2200 dollars quelque part à Chikapa ou là où le fleuve commence ou se termine. C'est quand même mal.
C'est ça votre inquiétude, confiance, c'est de savoir qu'il y a ceux qui peuvent aller se ravitailler à côté en Angola, à Lufu, jusqu'à 450 francs les litres, et qu'à Kinshasa, on puisse acheter à 1400. Et pour vous, le souci, c'est de voir comment nos autorités peuvent s'inspirer de ce qui se passe au voisinage pour savoir, mais pourquoi à côté de nous, le carburant coûte moins cher et chez nous, nous trois fois moins cher que chez nous, et deux fois c'est que ces ravitailles dans ces pays frontaliers, ces ravitailles à moins cher, et qu'ils puissent être obligés à payer à ces prix, on peut dire exagérés. Ça dépend aussi de la zone de consommation du carburant à travers le pays. Merci beaucoup, confiance. 081-890-595 pour intervenir en direct.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les défaillants des activités des agences officielles des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa. Vincent Charité. Parole aux auditeurs.
Avant de retourner à Michel Sommet, notre invité, Madame Joséphine, merci de nous avoir contacté pour votre intervention dans ce magazine. Bonjour, bienvenue.
Ah, bonjour Pierrot, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Hein. Mm-hmm. Bonjour Debout Congolais, c'est ma nouvelle salutation.
Merci.
C'est Michel Sommet, l'économiste. Je vais d'emblée dire ceci. Est-ce qu'il est contacté? Est-ce qu'il y a, un groupe d'économistes qui est le ministre des Affaires ou bien
de l'économie,
du commerce?
Oui.
Est-ce qu'on les contacte? Vous savez, je suis économiste de formation. J'ai fait l'économie pure à l'université de Lubumbashi, mais je n'utilise même pas ça. J'utilise mon 1+1 que ma mère m'a enseigné depuis que j'étais enfant. C'est une honte. Vraiment, mais, Pierrot, c'est une honte. Je vais dire ceci. Vous savez, hein, un gallon de carburant ici, chez nous, c'est $2.19. Mais ça fait au moins, il y a de cela, je crois, 3 mois, que c'était à $1.09. Et puis, si nous devons calculer, un gallon, ça fait au moins 3,7 litres au Congo. Mais quand les gallons ici chez nous, c'était même à 99,5, je vous dis, Pierrot, ici. Mais au Congo, les gens pleuraient toujours que le carburant était cher. En octobre de l'année passée, j'étais là. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Le véhicule que j'avais ici, j'ai dépensé au moins $36 pour faire le full. Je suis arrivé au Congo, j'ai dépensé $99 pour faire le full. Le même véhicule. Moi, je ne veux pas beaucoup de français, beaucoup de trucages. Moi, je me dis ceci. Quand le gouvernement congolais prend des mesures impopulaires, parce qu'on dit les malheurs des uns profitent au malheur des autres. Mm-hmm. Donc, si les Congolais souffrent, les mesures impopulaires profitent à qui? On doit connaître ces mesures impopulaires profitent à qui? On a parlé, tout le monde qui est passé avant moi, on a parlé du ciment. On a parlé de fer à béton.
Oui.
On a parlé même de la farine. On a parlé des pommes de terre. On parle maintenant aujourd'hui du carburant. Je vais vous dire ceci. Les Angolais, ils travaillent le carburant du Congo. Les Congo Brazzavillois, les Ougandais prennent le carburant du Congo. C'est pas bien. Ici, aux États-Unis, on parle de big government. Donc, les gens sont passés par les big government. Big government, c'est quoi? C'est comme Mobutu avait CEP. C'était CEP, hein?
Oui.
L'entreprise de gouvernement. Mm-hmm. On devait avoir ça. Quand il y a l'augmentation, le privé augmente le carburant. Toi, le gouvernement, tu viens avec ton carburant. Comme on achetait à mobile, on achetait aux pompes d'essence. Le carburant ne peut pas être cher. Même le carburant que nos commerçants importent maintenant, les commerçants ne payent pas d'impôts. On a parlé de la douane. On voit combien, on va à Kasumbalé, ça va voir combien le flux de carburant qui était même brûlé il y a une année,
oui.
Combien ça entre gratuitement. le gouvernement peut aller là-bas pour dire je voulais centrer les carburants, mais diminuer le prix. Donc ça profite à quelqu'un. Tout ce qui se passe au Congo, on a quelqu'un a parlé du coltan. Il y a une entreprise, AB Minerals, là, c'est une entreprise américaine qui traite le coltan. Qu'est-ce qui s'est... L'entreprise, là, a décidé d'aller construire, je vous dis, construire au Rwanda...
Oui, ils vont construire une usine de traitement.
...qui va traiter le coltan.
Le coltan au Rwanda en 2017, oui.
Ah, mais en 2017, tout ça, c'est comment? Le Rwanda exporte 50% mondial du coltan. Exporte. Comment on dit le Rwanda exporte 50% du coltan mondialement? Mais, mes chers amis, hein, mettons nos différences à côté. Travaillons pour le Congolais. Travaillons vraiment pour le Congolais. Le Congolais peut être payé et il reste à la maison.
Mm-hmm.
Chaque Congolais, chaque mois, peut avoir $500 et il reste à la maison. Mais cet argent part où?
Faudrait-il aujourd'hui de mécanismes mis en place et politique, madame, vous l'avez dit. D'ailleurs, vous avez évoqué cette histoire de la douane, c'était que nous en avons parlé le mercredi, hein, avec la dénonciation de la DGDA, des citernes, des 20 citernes des camions avec du carburant qui sont partis des Mahagi vers Bouya sans payer la douane. Et vous estimez que ça même, ça pouvait exonérer sur l'importation de ces produits, ça pouvait jouer sur le coût. Parce que vous avez évoqué le débat autour du ciment. Je rappelle encore que nous en parlerons le mardi avec ces prix au galop du ciment sur le marché. Mais pour vous, vous dites que dans tout ce qui arrive, disons quand même que ça profite à quelqu'un. Hein, c'est ça c'est que vous venez de dire. Mais Maître Sonville, vous gardez la ligne. Nous revenons à Michel Somoué. Alors, quand vous écoutez les uns et les autres, on est dans les domaines de la dénonciation, mais après tout, ça devient aussi de la résignation. Mais à un certain moment, il faudrait que le pouvoir public, comme s'inquiétait Madame Josephine, est-ce qu'il arrive que des experts économiques soient associés dans la prise des décisions et des mesures pour que ces mesures, effectivement, puissent alléger les consommateurs et profiter à la population, Michel Somoué?
D'abord, j'imagine, Thérault, j'imagine d'abord que le ministre Bahati est lui-même économiste. Du moins, c'est ce qu'il dit. Et autour de lui, c'est plein d'économistes. C'est entoure son cabinet, je l'espère. Mais je ne peux pas comprendre que le gouvernement s'engouffre dans toutes les mesures qui sont contre les lois économiques les plus simples, les plus élémentaires. Je pense que Maître Omer a mentionné le mot protectionnisme. Je n'avais pas cité ce mot-là. Mais malheureusement, c'est un protectionnisme pervers que nous subissons dans notre pays. Parce que je rappelle qu'on met des produits sur la liste des produits stratégiques pour éviter à ces produits d'augmenter des prix en conformité avec les modifications des conditions de leur offre sur le marché. Ça veut dire que ce sont des produits dont on doit bloquer les prix en faveur du bien-être de la population, pour que ne se modifie pas la consommation de la population. Mais ça m'étonne que le gouvernement ne prend que des mesures qui répriment la consommation, qui réduisent la consommation, qui pénalisent la consommation. Et là, je me pose la question de savoir, et c'est là que, excusez-moi de dire, c'est pour ça que je continue à me poser la question sur le patriotisme de notre gouvernement. Je me pose bien la question sur le nationalisme de notre gouvernement. Je me pose la question sur sa citoyenneté dans ce pays. Parce qu'à suivre en plus, c'est que Mme Josephine vient de dévoiler, mais qui est connue de tout le monde, la création d'une usine de traitement du coltan au Rwanda. Quand tout le monde sait que le coltan en question, c'est un coltan qui vient du Congo, on se pose des questions de savoir qu'est-ce que notre gouvernement peut faire contre cela. Est-ce qu'il n'est pas en faveur, à la limite, de cette expropriation du Congolais de son propre produit? Est-ce que le gouvernement a déjà pris comme mesure par rapport à ça? C'est là qu'on attend le ministère de l'économie. C'est là qu'on voudrait entendre un ministre qui protège l'économie nationale et non pas un ministre qui travaille en faveur des spéculateurs qui font office des firmes en l'air du Congo. Ça, je me pose des questions à la limite révoltantes. Il faut dire, Pierrot,
Parce que là, je rejoins encore une fois d'abord Mme Joséphine qui nous rappelle le prix de Galonne aux États-Unis. Je confirme parce que j'ai vécu ça. Je rappelle que à l'époque jugée antipopulaire de Mobutu, le litre de carburant coûtait encore 27 cents. 27 cents. Parce que j'étais capable de faire le plein de ma voiture à tout moment avec mon salaire de fonctionnaire. Et le litre coûtait 27 cents. Aujourd'hui, le prix du carburant a augmenté 6 fois plus qu'à l'époque de Mobutu. Alors, il faut bien se poser la question de savoir lequel des deux gouvernements est en faveur du Congo.
Mais est-ce que nous sommes les paramètres économiques étaient les mêmes du temps de Mobutu? On pouvait acheter à 27 cents et aujourd'hui, la situation économique, est-ce que les paramètres sont les mêmes?
Mais Pierrot, si nous voulons parler des paramètres économiques, mais tout le monde, quand on parle de l'époque de Mobutu, on parle du taux au taux du jour, on parle, tout le monde vous dit qu'à cette époque de Mobutu, le dollar était en train de flamber à tout instant, à chaque seconde, tout le monde le dit, tout le monde décrit cette époque de Mobutu comme étant l'époque de l'instabilité la plus profonde, l'époque du dysfonctionnement total de l'économie nationale. Mais aujourd'hui, le discours est contraire. On parle de la stabilisation, de la stabilité du cadre macroéconomique, on parle de la stabilité de la monnaie, on a l'impression que vu maintenant le Congo, c'est l'antichambre du paradis. Mais voilà les paramètres. Alors il faut se poser la question de savoir si en réalité on est l'antichambre du paradis ou ce n'est pas l'antichambre de l'enfer. Est-ce que ce qu'on appelle stabilité, ce n'est pas la limite, l'asphyxie, ce n'est pas l'euthanasie de l'économie nationale? Est-ce que ce n'est pas l'assassinat, le massacre collectif des Congolais qu'on appelle la stabilité? Parce qu'à la limite, tout le monde le sait, un cadavre ne bouge pas, un cadavre ne souffre plus d'hypertension, un cadavre il est tranquille là où il est stable. Est-ce que ce n'est pas le cas du Congo aujourd'hui?
Alors, Maître Sanville, vous êtes à Lubumbashi, je crois la situation à la pompe n'est pas la même avec Kinshasa, parce que l'importation aussi de produits par l'Afrique australe, je crois, ça a une autre influence qu'ici. Quel est votre point de vue, Maître? Bonjour. Maître Sanville, vous êtes avec nous? Le temps que la réalisation puisse le recontacter, me retourner, c'est à Kinshasa. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot et la Meji, et aussi bonjour à l'invité. Pourquoi pas à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Nicolas.
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot, de m'avoir accordé la parole. Moi, j'ai une petite préoccupation par rapport à ce qui se passe dans notre pays. M. Pierrot, vous savez, ça fait très mal. Parce que les prix du baril, lorsque c'était en prix bas, là, le gouvernement n'a pas songé d'abaisser les prix de carburant. Mais lorsque les barils osent seulement augmenter, et voilà aujourd'hui les prix d'un litre de l'essence qui est de 140 à 190 francs congolais. Ce n'est pas vraiment intéressant. Vous savez, moi je conclue pour dire que notre gouvernement ne travaille pas pour les peuples congolais, mais plutôt c'est pour eux et les étrangers. Je peux vous le démontrer. Dernièrement, toujours dans cette chaîne, cette émission, vous avez reçu le professeur Bob Kirongozi, si je me rappelle bien.
Oui.
Il a parlé de choses,
de l'application, tout
ça. Mais le gouvernement, au lieu de soutenir les génies propres congolais, lui, il le voit très loin pour aller solliciter une société sud-africaine pour venir faire les robots roulages que nous-mêmes nous sommes capables de les faire. Vous voyez que le gouvernement ne travaille pour les Congolais. Moi, ce que je connais, même ici en ville de Kinshasa, les milliers sont différents. Les milliers de riches, c'est là où les prix coûtent cher par rapport aux milliers réguliers. Mais comment notre pays, qu'on appelle les pays sous-développés, mais les prix de carburant coûtent très cher par rapport aux pays développés? Tout à l'heure, là, j'ai entendu Mme Joséphine qui habite les États-Unis. Il a dit là-bas, les carburants coûtent moins cher. Mais en quoi est-ce que nous... Bon, en conclusion, pour ne pas prendre beaucoup de temps, M. Pierrot, je voulais dire ceci. Vous savez, ici, dans notre pays, nous avons les intellectuels. Il y a les intellectuels qui ont étudié, d'ailleurs, le sous-développement n'a pas rayon de se justifier. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire quelque chose pour le développement, tout ça, on sollicite ceux qui viennent d'ailleurs.
qui ne tiennent pas compte de ce qu'ils
ont formé. Des locales qui sont formées. Alors là, en évoquant ça, donnant aussi l'exemple de ce qui s'est passé lors de ces débats autour du contrat signé entre le gouvernement congolais et la FIN sud-africaine pour la gestion de la sécurité routière, où les gens sont revenus plus sur les génies locales avec l'entreprise qui a mis en place les robots intelligents. Pourquoi ne pas financer cette entreprise et recourir à l'extérieur? Vous êtes revenu sur ça, si vous estimez que la plupart des mesures qui sont prises ne sont pas en faveur de la population détenue, de la consommation. Alors on retourne à Lubumbashi. Maître Sonville, je crois que la ligne s'est améliorée entre vous et les studios. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à Michel Somo et notre invité. Et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Capitale.
On vous écoute, maître.
Oui, mais, M. Pierrot, moi je dirais que nous vivons un gouvernement suicidaire. Tout ce que je ne vois pas, c'est que le gouvernement joue son rôle. Nous ne comprenons pas. Comment est-ce que le ministre de l'économie, lui, réagit avec diligence, avec célérité, toujours dans l'augmentation des prix? On ne comprend absolument rien. Lorsque le prix des barils était rebâti à la baisse, il n'y avait pas eu, ils n'ont pas revu le prix sensiblement à la baisse. Pourquoi seulement lorsqu'il y a une petite augmentation, du baril, il réagit directement? Moi, j'estime que ceci, je voudrais dire ceci. Ce n'est pas pour cela que le gouvernement est presque à terme, jusqu'à d'ici là, le 19 décembre, le gouvernement doit partir pour commencer à tenir à bras la population. Je peux vous dire qu'au niveau de Lubumbashi, puisqu'il y a une petite augmentation du carburant, le temps de Paris il mettra à 18 000 francs congolais. Mais je ne comprends pas comment est-ce que le ministre de l'économie peut s'arranger les gros de prendre des mesures impopulaires, que je peux appeler même des mesures répressives. Puisque si vous sacrifiez votre population, vous n'êtes pas en mesure de conserver le mieux-être de cette population. La population souffre terriblement et cette augmentation vient de prendre cours au moment où le peuple s'attend à la rentrée scolaire. Et tout cela va peser dans le panier de l'aménager. Je ne comprends pas absolument rien. Moi, je demanderais seulement au ministre de l'économie de démissionner. Qu'il démissionne avant que nous puissions arriver à la date du 19 décembre, ou le 20 décembre, son gouvernement est le chef de l'État de la partie. Dans ce cas, je vous le dis carrément, M. Pierrot.
Voilà, on ne va pas transformer quand même. Oui, maître Sonville, on ne va pas quand même transformer les débats. Voilà, on comprend la gravité de votre souci, mais on ne va pas transformer l'espace dans une réclamation du départ du gouvernement et du chef de l'État à la fin de l'année. Mais ce que vous avez dit quand même, c'est important. Il y a un élément très important que vous avez soulevé à Lubumbashi, le fait qu'on ait ajusté les prix à la pompe, ça a joué sensiblement sur la farine, les 5 revient aujourd'hui à 18 000 francs, et puis vous êtes inquiet parce que ce réajustement arrive à la veille de la rentrée scolaire, ça peut avoir autant d'implications sur les autres produits de consommation, pourquoi pas aussi les transports en commun. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à Michel Sommé comment on peut arriver à rééquilibrer pour éviter qu'il y ait une spéculation sur le terrain. Merci beaucoup, Maître Sonville, au-delà de remords et des colères que vous avez par rapport à ces mesures. Nous avons Christian qui est à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. C'est Christian Mwambachibende à Kananga. Le sujet du jour est tellement très important et d'actualité au pays. À mon avis, la décision prise par la structure des prix réunissant les groupement de sociétés pétrolières privées est bonne d'une part, et d'autre part, la décision n'est pas assez juste. Pourquoi je dis cela? Car le soi-disant réajustement des prix de 1 litre d'essence n'a pas du tout touché toutes les villes de la RDC. La décision n'est pas généralisée. Elle est surtout localisée seulement pour la ville de Kinshasa. Mais elle devait concerner tous les pays afin de permettre à tout le monde de jouir à ces réajustements. Or, ce n'est pas le cas à Kananga. Le transport est trop cher. Pourquoi? Parce que le prix d'essence est stationnaire, le coût n'est pas abordable. Si c'est, je suggérerais à la structure et au ministère impliqué, disait de leur droit de généraliser la décision pour faciliter les transports. Et aussi d'autre part, pourquoi le gouvernement songe seulement de réajuster les prix de 1 litre d'essence tant que les routes à travers lesquelles les transports passent sont dans un état de délabrement? Il fallait d'abord commencer par la mise en place des projets de réhabilitation des infrastructures routières et d'aménagement territorial et sectaire de toute la RDC. Nous voyons les routes sont en état de délabrement, mais on réajuste les prix de 1 litre d'essence. Les transports qui vont déambuler sur les routes, ils vont déambuler dans quel état des routes sur lesquelles les transports vont marcher. C'est pour cela que je suggérais au ministère et aux autres structures impliquées de voir d'abord l'état des routes et aussi on a aujourd'hui réhabilité, on a aujourd'hui réajusté le prix de 50 francs. Et dans les jours à venir, on va encore réajuster. Ça sera de 100 francs et on va où vraiment? C'est vraiment une question que le ministère...
Alors, ça devient vraiment... juste cette inquiétude. Vous auriez souhaité que le ministère s'en occupe, mais il y a eu cette corrélation pour vous. On augmente les prix du carburant, il faut qu'on se le dise, mais quand même, les routes sur lesquelles vont rouler ces engins qui utilisent les carburants sont dans beaucoup de routes aujourd'hui sont délabrées. Il faudrait qu'on se le dise à travers les pays. C'est un autre débat. On pourra voir avec le recul de la saison des pluies ici à Kinshasa les points sur la situation des infrastructures routières à travers le pays. Merci beaucoup, Tristan. Mais vous auriez souhaité que cela soit réajusté en tenant compte d'autres paramètres. On revient à vous, Michel Sommoué. Au-delà, comme je disais tout à l'heure, de la résignation, il y a quand même la place du consommateur. Vous qui avez non seulement été aussi en tant que fonctionnaire, vous avez travaillé, vous avez collaboré avec le pouvoir public, je crois, sous d'autres régimes. Pensez-vous que quand la structure des prix s'est réunie entre le ministère de l'économie, les sociétaires et les autres, y a-t-il aussi des délégués des consommateurs qui sont pris en compte dans ces discussions dans notre pays?
Thérault, avant que je ne parle du délégué des consommateurs, permettez-moi quand même de revenir un peu sur la structure des prix en question. Parce que, à véritablement parler, le prix du carburant n'est pas que le prix du carburant. Parce que ce que nous payons sous couvert du carburant, ce sont des services de l'État. C'est le FONER, c'est la SOCIR, c'est la CEP, etc. Ce sont des sociétés autres qui ont trouvé derrière l'État un moyen, un soutien nécessaire pour arracher aux citoyens congolais un peu de leur argent, parce qu'ils ne se rendront pas compte qu'ils sont en train de donner de l'argent à des gens qui ne le méritent pas, mais ils le font sous couvert du prix du carburant. Si on élaguait du prix du carburant tous ces messieurs-là, toutes ces entreprises-là, je pense que nous serions normalement dans les environs du prix que Mobutu avait laissé dans ce pays, pour être vrai. Parce que tous les gérants des gestionnaires des pompes d'essence vous diront que le vrai prix du carburant n'est même pas la moitié de ce qui est fixé. C'est un point de départ. Maintenant, pour revenir à la commission qui statue sur la structure des prix, mais il faut reconnaître au départ la nature et la faiblesse de ce que nous appelons chez nous les syndicats. Les syndicats des travailleurs, les syndicats des entrepreneurs, mais en réalité, lorsque c'est la FEC qui vient représenter les travailleurs, vous devez savoir qu'il s'agit essentiellement des entreprises étrangères. Je n'exagère rien. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours rappelé, je l'ai toujours dénoncé. La FEC est une fédération des entreprises étrangères aux intérêts du Congo. La FEC, ce sont les 20 ou 21 banques commerciales que nous avons qui n'ont rien à voir avec l'économie nationale. La FEC, c'est toutes ces multinationales qui sont en train de spolier nos ressources, nos minières et même agricoles, mais qui n'ont pas de compte à rendre aux citoyens congolais. C'est ça que la FEC représente. Ce sont ces pétroliers-là, étrangers, qui sont en train de spolier le produit national et qui nous le vendent en utilisant une main-d'œuvre congolaise. Voilà la FEC qui vient aux réunions avec le ministère de l'économie. Et ça marche très bien parce que le ministère en général chez nous est comme un défenseur des intérêts de ces spoliateurs-là. Vous savez, c'est ça que j'ai appelé dès le départ le cynisme. C'est ça la conception, quelqu'un l'a dit même dans cette émission et ça m'a fait mal, c'est ça la conception de l'État gendarme. L'État gendarme, c'est un État qui était inventé par Adam Smith pour être bien défini comme un État qui est là pour protéger les intérêts des riches contre les pauvres, afin que les pauvres ne se révoltent pas un jour pour arracher aux riches ce qui leur est dû, ou ce qui leur appartient, ou ce qu'ils ont volé aux pauvres, justement. C'est ça, la logique.
Alors, si vous me permettez, juste en 40 secondes, Eric Placemon, il est ici à Kinshasa, on revient à vous pour que c'est terminé. Eric, vous êtes avec nous. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, journaliste.
Alors, vous avez trouvé les uns et les autres rapidement votre point de vue pour terminer cet échange en 45 secondes.
Oui, comme il n'y a plus assez de temps, en fait, moi je vais dire ceci. Vous savez, lorsque vous avez un grand frère ou une grande sœur qui vous frappe à tout moment et que vous ne répondez pas, le jour que vous, vous allez lui gifler une seule fois, il va réfléchir 10 fois avant de vous frapper encore. Et c'est ça le problème, c'est notre population qui est fossile. C'est toujours notre population parce que nous sommes trop naïfs, nous ne parlons pas, nous ne marchons pas, nous ne révoltons pas. On ne revendique rien. C'est ça le grand problème.
Vous l'auriez souhaité voir vraiment les organisations, comme le disait Michel Somoy, des consommateurs revendiquer chaque fois qu'il y a l'augmentation de tout, quelque chose qui est en défaveur de la population. Merci beaucoup, Eric, pour ces points de vue. Michel Somoy, revient à vous pour profiter par après, chez vous, de votre phrase et puis aussi conclure cet échange.
Oui, je voulais dire à propos de la suite de prix que si le ministre était plus ou moins juste, si le ministre était un citoyen congolais aimant ce pays et fier de ce pays, parce que si Mme Josephine a parlé des États-Unis d'Amérique, je peux vous confirmer que la particularité du citoyen américain, c'est l'amour pour son pays, pour sa patrie, malgré les différences, malgré les divergences, malgré les partis différents, les démocrates, les républicains et tout ce que vous imaginez, mais ce qu'ils ont en commun, c'est l'amour pour leur pays. Et ils passent l'intérêt pour le de leur pays avant toute autre chose. Mais chez nous, nous avons des gens qui deviennent ministres, qui deviennent ADG au détriment de leur pays, au détriment de leurs concitoyens, de leurs frères propres. Et ça, c'est très malheureux. Si le ministre avait encore un peu d'amour pour ces citoyens que nous sommes, pour ces frères que nous sommes, il devrait voir dans la structure des prix un élément qui devait sacrifier au lieu de passer le prix.
Merci. Merci beaucoup,
Michel Somoy.
Merci beaucoup, Michel Somoy, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ce sujet. Je rappelle encore le débat. Je pense sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe des productions qui nous a et qui a été avec nous cette semaine. Jean-Claude Salah était à la mise en onde. Julie Faisa Bongonda était à la réalisation au standard, assisté 2 fois par Tatima Poukou, Nico Kalambay, pourquoi pas Marcel Ngombo. Pierrot et la Mégie a été avec vous devant ces micros et nous vous disons merci pour votre sympathique attention. On se retrouve le lundi pour de nouvelles aventures avec Parole aux auditeurs. Mais pour le moment, on dit aussi merci à Julien Amouni qui a été à la supervision. Le programme continue sur Radio Capi. Bon week-end à tous. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.